Bonjour à tous, je suis Caroline Dubois, l'hôtesse de cette seconde édition du Sommet mondial de la réussite. Si trouver la personne qui vous convient, l'amour de votre vie et rester amoureux vous intéresse, et aimer et être aimé, écoutez les conseils de notre professionnel de la relation amoureuse. J'ai la grande joie de vous présenter la pétillante Bénédicte Anne de cafédelamour.fr. Bénédicte est love coach et auteur. Passionnée par les ressorts intimes du lien amoureux, psychologue de formation, Bénédicte a créé une agence de mise en relation et une école de séduction. Elle a développé les fondements du diagnostic amoureux qu'elle introduit lors des cafés de l'amour qu'elle anime à Paris, Bruxelles et Montréal et de plus en plus dans toutes les villes du monde entier. Ces dernières années, elle est intervenue sur des plateaux de télévision comme experte de la rencontre et de la liaison amoureuse. Sa pratique du love coaching a fait l'objet de nombreux reportages sur France 2, France 3, Direct 8, M6, NRJ 12, TF1, etc. Elle est l'auteur de deux livres et le dernier sorti 2012 s'intitule « Autodiagnostic amoureux ». Lors de cet entretien, Bénédicte va nous guider sur la route d'un auto-coaching amoureux vers une vie heureuse en amour. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence « Devenez votre propre love coach et soyez heureux en amour ». Et joignez-vous à moi pour accueillir Bénédicte Anne. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Caroline.
Alors Bénédicte, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire la suite du premier livre ? Et le premier s'intitulait « Le prochain, c'est le bon ».
Absolument, aux éditions Albin Michel, figure-toi que, à force d'écouter les gens me raconter leur vie dans toute la francophonie occidentale, je me suis rendu compte que les 5 étapes que j'avais donc conçues étaient très bien pour des gens qui n'avaient pas de problème particulier, mais que dès qu'il y a des identifications au vide d'un petit canard, des loyautés, des blocages, des manques de confiance, très souvent, eh bien, il y a des problèmes qui font que tous les coachings du monde ne servent à rien si derrière le sabotage est en place. Et donc j'ai écrit un livre pour aider les hommes et les femmes à faire le point dans leur relation amoureuse, aussi bien à ceux qui sont dans le calme plat depuis des années, que ceux qui démarrent une histoire, que ceux qui se posent des questions sur leur histoire en cours, ou que ceux qui sont en recherche très active, avec une flopée de partenaires pendant les 20 dernières années ou les derniers mois, peu importe, c'est-à-dire pour aller à l'essentiel.
Donc, dans ce que tu viens d'expliquer, tu as vraiment fait un panel de tout ce qui existe au niveau des relations amoureuses, si je ne m'abuse.
Alors oui, parce que je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes scénarios qui se répétaient. En général, on prend le même avec un autre pull. En d'autres termes, on change le décor et les costumes, mais le fond reste le même. Et généralement, les gens qui vous ont maltraité d'une certaine manière vous maltraitent d'une autre, mais que ça revient toujours à la même chose. Ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de scénarios amoureux possibles. En réalité, il y a 3 scénarios fondamentaux. C'est « il se passe rien dans ma vie parce que j'ai peur » ou « ça ne m'intéresse pas ». Dans ce cas-là, on n'écoute pas cette conférence, donc c'est réglé. Donc c'est souvent parce que j'ai peur. Je suis avec quelqu'un qui ne me convient pas, mais je reste parce que j'ai peur encore de partir. Et je suis avec quelqu'un dont je suis raide dingue, mais j'arrive pas à m'en dépatouiller, donc je reste dans ce lien avec lequel je me sens très mal, mais j'y reste. Et il y a bien sûr le cas de figure du « je pense que je suis prête » et je suis à la recherche de mon prochain partenaire. Et finalement, tous ces profils reviennent à peu près au même, c'est-à-dire qu'ils ont un passé et que ce passé-là dit quelque chose de leur histoire.
Donc, dans ton précédent livre, tu parlais de faire le deuil de son passé, de son ex. Et là, tu parles, dans ton livre qui est sorti juste après, là, le deuxième, tu parles de fantôme. C'est quoi la différence entre le fantôme et l'ex ?
Eh bien, l'ex est en général le dernier. C'est parfois celui avec lequel on a divorcé, avec lequel ça s'est passé très très mal pendant plusieurs années avec des guerres de part et d'autre. Et le fantôme, c'est un personnage que j'ai découvert au fur et à mesure de mes consultations. C'est ça peut être un amour de jeunesse, un Miguel qu'on a connu en Espagne et que maman est venue nous chercher, un Manu Militari, parce qu'à l'époque, dans les années 50 ou 60, ça ne se faisait pas de perdre sa virginité en Espagne, même en apprenant la langue. Ça peut être un amour contrarié pour des raisons de religion, pour des raisons de géographie, Par exemple, vous étiez en train de vous rencontrer, le mur de Berlin vous a séparé et vous avez cette nostalgie. Par exemple, quelqu'un qui avait un problème avec l'alcool ou avec une dépendance, vous avez dû quitter cette relation et pourtant vous en gardez un souvenir merveilleux. Ce qui fait que ça reste un fantasme et que parfois j'ai découvert que derrière l'ex, on pensait que l'ex était le vrai problème, derrière l'ex de la personne que vous venez de rencontrer se cache en fait un personnage qui l'a marqué au fer rouge et qui finalement est beaucoup plus important. Ça c'est chez l'autre. Et puis chez vous, il arrive que vous vous endormiez avec le souvenir de votre Miguel ou de votre Stéphane, votre héros de la Baltique, peu importe, celui avec lequel vous avez dû arrêter toute affaire cessante parce que les parents, parce que les histoires politiques, etc. Et du coup, vous avez quelque part en vous ce fantôme qui vous berce, auprès duquel vous vous endormez et qui fait finalement écran à une rencontre de chair et d'os. Ce qui fait que très souvent, non seulement il faut avoir fait le deuil de ses ex, mais il faut parfois traquer les fantômes. C'est pas systématique, mais c'était suffisamment fréquent pour que j'ai pensé que ça valait le coup de vérifier qu'on avait vraiment plus personne derrière soi, plus de boulets à ses chevilles, donc autant de partenaires du passé, soit encore dans le lien actuel, soit dans le lien psychologique, qui finalement sont autant de barrières avec la personne avec laquelle on pourrait être heureuse dans la durée.
Ok, et donc tu penses vraiment qu'on peut s'auto-coacher ?
Voilà, pour m'auto-coacher, en fait, ce qui est important, c'est d'identifier les points communs entre mes différents partenaires et de faire le lien avec les points communs qui pourraient exister entre les relations que j'ai eues et les relations que j'ai eues avec les personnes qui m'ont élevée et de se rendre compte que finalement, il y a des répétitions troublantes, des loyautés, des moments où j'ai un manque d'estime de moi qui vient de mon histoire et qui se répète avec mes partenaires et qui me permet de savoir où je vais travailler. Donc dans mon guide, dans ce guide-là, en fait, à chaque étape de ce guide, c'est pas du tout les mêmes étapes que dans le guide précédent, je propose donc une ouverture sur la relation par des adresses. Des adresses des types de stages qui sont adaptés. Par exemple, si je manque de confiance en moi, je vais pas faire la même chose que si je suis en colère. Si je suis en colère parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait des chouchous et j'étais évidemment pas chouchou, ça ne sert à rien que j'aille travailler sur mon féminin dans un premier temps. Le féminin, c'est plutôt, si je suis une femme et que je suis très soumise, il va falloir que j'apprenne à ne plus l'être. Et si je suis trop masculine, il va falloir que j'apprenne à accueillir l'homme aussi. Et donc, je serais peut-être amenée à travailler d'abord sur ma colère, ensuite sur mon féminin, et peut-être après aller directement dans mon corps. Donc, l'auto-coaching, ça permet de voir où le bas blesse et d'aller travailler directement là où il y a le blocage et le problème. Alors que très souvent, on va travailler à des endroits tout à fait passionnants, mais qui ne sont évidemment pas ceux qui nous dérangent le plus. Parce que si ça nous dérange, eh ben j'ai peur d'y aller, parce que si jamais je finissais par m'en sortir, à qui ça profiterait ? C'est-à-dire que je vais être heureuse tout à coup, ça va poser problème à quelqu'un. À qui profite le crime quand je suis malheureuse et qui ne supporterait pas que je sois heureuse ? C'est pour ça que très souvent, les gens ont tendance à aller du mauvais côté, c'est-à-dire dans un endroit où ils vont apprendre des choses sur eux importantes, mais ils ne vont pas aller au cœur du blocage, qui crée les difficultés amoureuses, bien sûr.
Donc, Bénédicte, comment expliques-tu que des personnes répètent toujours le même type de relation ? Et même les gens, ils ont l'impression toujours de rencontrer le même genre de personnes.
Alors, ça c'est une explication très simple. C'est qu'en général, on va chercher le partenaire qui va nous amener à revivre exactement les mêmes sensations que nous éprouvions étant enfants. Sensations à la fois de frustration, à la fois de grande joie. En général, les deux sont mêlés. Et ce que nous attendons de ce partenaire, c'est qu'il répare notre enfance. C'est-à-dire que nous allons chercher quelqu'un qui précisément ne va pas réparer notre enfance et qui va même nous faire revivre exactement les mêmes choses avec les mêmes frustrations. Et nous allons être dans la même colère, la même soumission ou la même demande. Et donc, nous sommes inexorablement attirés par des personnes qui vont nous mettre en difficulté parce que c'est ce que nous avons connu. Et nous avons un cerveau limbique qui est resté figé sur ses mémoires et ses souvenirs de notre enfance. Et nous avons tendance à chercher des personnes avec notre GPS inconscient qui vont nous remettre dans cette posture. Et donc, il y a des femmes qui sont mais cruellement sexuellement attirées par des hommes alcooliques ou des hommes qui sont sexuellement attirés par des femmes vénéneuses qui leur tiennent la dragée haute, mais parce qu'ils sont ou elles sont immédiatement excitées parce qu'ils sentent déjà qu'ils vont revivre ce moment de l'enfance où ils attendaient un peu de reconnaissance, et cette reconnaissance-là n'arrivait jamais. Et comme un enfant n'a pas tellement le choix, soit il fait un cancer et il meurt, soit il traverse la rue en lâchant la main de sa mère et il se jette sous une voiture, soit il se rebelle, soit il se soumet. Et donc beaucoup de gens se sont soumis et ont continué à vivre dans l'espoir que ça allait s'arranger. Parce qu'on ne peut vivre que dans l'idée que enfin papa et maman vont nous aimer, nous reconnaître. Parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient, certes. Et ce qui fait que cette espèce d'excitation qu'on a ressentie dans l'enfance, dans l'espoir qu'enfin nous allions être reconnus, cette excitation-là, elle est à l'origine de nos rencontres amoureuses, qui sont bien sûr la rencontre de deux inconscients. Et donc, à moins d'avoir identifié justement d'où venait l'excitation et d'avoir renoncé à ce bénéfice caché, parce que c'est quand même pas désagréable d'être vivant dans cette souffrance-là, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc à moins de renoncer à ça, nous allons rencontrer des partenaires qui vont nous ramener inéluctablement avec des costumes différents dans le même type de souffrance. Et c'est ça qui moi me touche et me motive, parce que je vois tellement de gens qui souffrent et qui ont les warnings, qui leur disent « attention, il y a un danger, il ne faut pas y aller », et qui se disent « mais non, mais je vais quand même essayer cette fois-ci, je suis prévenu », et puis qui se ramassent. Et le pire dans tout ça, c'est que l'autre a souvent le même besoin, mais qu'il n'arrive pas à se rencontrer. Parce qu'il y en a un, par exemple, qui a beaucoup reçu trop et qui ne sait pas comment supporter une mère ou un père omniprésent, et un qui n'a pas assez reçu, qui va être en perpétuelle demande. Et tant qu'ils n'auront pas pu se rencontrer au niveau de leurs enfants blessés, ils vont se disputer jusqu'à ce qu'ils changent de partenaire, qu'ils trouvent quelqu'un d'autre avec lequel ils vont répéter. Soit se disputer en permanence, soit revivre des personnes qui sont impossibles et qui vous font souffrir, par exemple des personnes qui ne sont pas disponibles, des personnes qui ne veulent pas s'engager, des personnes qui vivent très loin. Mais derrière tous ces choix, il y a aussi un bénéfice. Et c'est ça souvent qu'on ne dit pas. C'est que si je me ramasse en amour, j'y trouve mon compte quelque part. Parce que sinon, il y a des gens que je fuirais. Et j'y trouve mon compte parce que pendant ce temps-là, au moins, c'est quelque chose que je connais qui me rend plus vivant que le néant. Parce que quand j'étais petit, je n'existais que dans le rejet. Et ce rejet-là m'a construite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à être attirée par des personnes impossibles, tout en rêvant, bien sûr, de la petite maison dans la prairie, évidemment.
Alors, ça me donne une explication, mais il y a quelque chose qui me semble encore très, très mystérieux. C'est que quand certaines personnes que je connais, je pense à une en particulier, qui est toujours amoureux d'une personne, d'une femme qui va être insaisissable, il y a un sentiment de passion tant que la personne désirée est insaisissable. Et puis c'est comme si le sentiment amoureux s'en va quand la personne n'est plus insaisissable. Mais donc ce type de personne va toujours chercher des personnes qui sont insaisissables. Donc il y a toujours un moment où cohabitent ensemble la passion amoureuse et en même temps quelque chose de tellement malheureux, puisque si la personne est insaisissable, elle restera insaisissable. Mais cette personne n'est attirée que par des personnes comme ça.
Mais oui, c'est tout à fait logique. Je vais le dire autrement. En fait, elle va beaucoup donner pour recevoir des miettes. C'est-à-dire que en faisant, parce que quand vous avez quelqu'un qui est insaisissable, c'est vous qui êtes obligé de vous démener pour saisir cette personne. Donc oui. chez certains partenaires, ça passe par le fait d'aller chez l'autre, faire son ménage, préparer à manger, ça passe par traverser la ville à des heures incroyables pour se soumettre à son emploi du temps. C'est en général la personne qui est passionnée fait beaucoup pour obtenir peu, c'est-à-dire exactement ce qu'elle vivait dans l'enfance, mais en même temps le peu qu'elle obtient lui paraît énorme, c'est déjà un cadeau, c'est merveilleux. Et c'est son modèle jusqu'au jour où cette relation de dépendance affective, parce que c'est tout simplement de la dépendance affective, elle est devenue insupportable, parce que pendant ce temps-là, elle dort plus, elle devient malade, etc. Donc elle s'interdit, après elle va essayer de soigner sa dépendance, et elle va essayer de couper ce lien. Elle va avoir un mal fou à couper ce lien, et du coup elle va passer pendant des années sans personne, parce que recommencer à aimer, c'est risquer d'être à nouveau en dépendance affective, à la fois dans l'insaisissabilité, dans la souffrance et dans les miettes. Donc finalement, la personne va régler son problème en ne vivant plus rien. Alors, pendant un certain nombre d'années, elle va répéter l'histoire, passer de personne insaisissable en personne insaisissable, jusqu'au jour où elle va arrêter le sexe qui l'intéresse, en se disant « au moins comme ça je suis heureuse, parce que je ne suis plus prise par les feux de la passion, sachant que passion, ça vient de pathos, hein, c'est une pathologie. Et donc la passion, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose qui vous met dans tous vos états parce que c'est impossible. Et d'ailleurs, dès que vous l'avez dit vous-même, dès que ça devient possible, c'est beaucoup moins excitant. Il n'y a plus cette érotisation dont je parlais tout à l'heure. C'est l'érotisation qui fait que les personnes sont passionnées. C'est pour ça que des personnes qui sont chacune mariées de leur côté vont se battre pendant des années pour être ensemble. Et quand c'est souvent d'ailleurs, leurs histoires vont durer pendant 20 ou 30 ans. Mais la plupart du temps, quand il y en a un qui est marié et pas l'autre, l'histoire, elle va, ils sont à deux à lutter contre la personne à abattre, c'est-à-dire celle qu'on veut quitter, qui bien sûr ne se laisse pas faire. Et en général, quand il n'y a plus de lutte, il n'y a plus personne. C'est pour ça que quand il y a une égalité, quand il y a deux personnes mariées qui décident de divorcer pour vivre quelque chose ensemble, ça a plus de chances pour que ça marche parce qu'au départ, elles sont à égalité. En fait, c'était sans doute deux personnes qui n'étaient pas bien dans leur couple et qui ont profité de cette opportunité pour avoir l'énergie pour partir. Mais il est toujours difficile, Caroline, de généraliser parce que chaque cas est unique. En fait, chaque histoire, c'est pour ça que dans mon livre Autodiagnostic amoureux, j'essaie de montrer les différents cas de figure et de montrer qu'on peut être à la fois on peut avoir plusieurs types de loyauté, plusieurs types de répétition. On peut être le vilain petit canard d'un personnage de sa famille et on peut être on peut avoir plusieurs niveaux de lecture qui nous emmènent en coaching justement à chercher une personne qui va combler on va dire trois pôles différents. Par exemple, maman a été très malheureuse en amour, elle s'est sacrifiée pour que je puisse grandir dans un foyer et donc par loyauté à maman, je ne peux pas être heureuse en amour parce que voilà, elle s'est sacrifiée. Mais je peux avoir été le vilain petit canard de ma sœur qui avait 10 cm de plus que moi et fille, ou mon frère, hein, chacun va pouvoir transposer, qui avait 10 kilos de moins, qui avait 20 partout à l'école, alors que moi je ramais et elle passait son temps à me critiquer. Mais si je suis la sœur qui réussissait tout, je peux aussi m'être sabotée par loyauté à ma sœur qui avait tellement de mal. Donc je peux donc avoir vécu avec une maman qui s'est sacrifiée pour moi, avoir été le vilain petit canard de ma sœur ou m'être sabotée pour ma sœur, et avoir porté la tristesse de papa qui était tellement maltraité par sa mère, son père, ma mère, etc. Donc il peut y avoir trois éléments en même temps qui vont faire que la personne va choisir un partenaire qui va lui faire revivre les mêmes choses, c'est-à-dire tu t'es vu comment t'es habillée mais tu peux pas sortir comme ça, ou qui va culpabiliser la personne en disant « Ah bon, tu vas travailler tard ?» Ah, je vois, quand tu travaillais pas, t'étais jamais disponible parce qu'il y avait les enfants, puis maintenant t'as dit que t'allais travailler parce que les enfants étaient grands, puis je vois que t'as encore pas de temps pour moi. Et là, bien sûr, on retrouve souvent le discours d'une mère qui est culpabilisante. Mais là encore, je donne des exemples, mais vous savez bien que chaque configuration est particulière. Néanmoins, avec le fait de s'autodiagnostiquer, ça permet de voir où aller chercher la réponse et comment transformer une situation. Sachant quand même que la première chose, la chose essentielle, c'est est-ce que j'ai envie d'un changement ? Parce que la plupart des gens, ils sont comme ils sont dans un peu en avant, un peu en arrière. Ils sont dans le syndrome « je voudrais bien, mais je peux point ». C'est-à-dire que ils ont compris le blocage, ils ont identifié le problème, ils ont compris qu'il y avait des liens entre leur histoire familiale, leur partenaire amoureux et leur choix. Ils savent très bien ce qu'il faut arrêter, par exemple les personnes qui ne sont pas libres. Mais en fait, le bénéfice caché qu'ils ont est tellement important que, et puis aussi le confort de ce qu'ils connaissent est tellement important qu'ils se disent « on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on retrouve ». Et puis aussi très souvent, quand il s'agit de cesser de faire couple avec un parent ou un membre de la famille, il dit bah, « maintenant vous avez deux solutions, soit vous continuez à être au service de la personne que vous honorez, soit vous vivez pour vous ». Et là, j'entends cette phrase qui est quand même extraordinaire, c'est « mais c'est ma mère !» Et je mets à bêler, et je me dis « mais c'est pas grave que vous vous sacrifiez pour votre maman, c'est pas un problème, mais vous êtes venu me dire « je comprends pas pourquoi je rencontre pas l'amour ben, ». Vous ne rencontrez pas l'amour parce que tous les jours, vous allez faire le repas de bonne maman, et que vous lui racontez vos histoires qui foirent, et que ben, vous tenez compagnie à maman depuis la mort de papa. Et c'est pas grave. Sauf que si vous me demandez pourquoi vous ne rencontrez pas l'amour, parce que ça fait 20 ans que vous vous débrouillez pour avoir des amants furtifs et que ça ne marche pas. Donc le problème, il n'est pas de s'occuper de ses parents, il est de se sacrifier pour ne pas pouvoir vivre et une histoire d'amour et de s'occuper, comme tout enfant pourrait le souhaiter, si c'est son éducation et son désir, de ses parents. Et ce qui fait que ça nous amène à faire des choix à certains moments, et ces choix-là sont douloureux, parce que quand les parents sont dépressifs ou veufs, ou quand c'est un frère ou une sœur qui est handicapé, tout ça, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se sont pas autorisés à être heureux en amour parce qu'ils avaient un frère ou une sœur handicapé, ou parce qu'ils avaient l'impression que si eux étaient heureux, déjà qu'ils avaient réussi leur vie professionnelle, ils n'allaient pas en plus, leur vie professionnelle réussie, s'autoriser à devenir homme-femme dans une relation intime, voire père ou mère, oh là là, que de transgression. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que si je ne fais pas ce choix de cette liberté, donc de mon bonheur en amour, c'est pas à 98 ans que je vais le faire, ce choix-là. Donc pour moi, on peut le faire jusqu'à 70, 75 ans. Tant qu'on est en bonne santé, on peut le faire. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Et la grande question que je me poserai le jour de ma mort, parce que chacun devrait se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a un livre qui s'appelle « Le top 5 des regrets des mourants » qui a été écrit par une infirmière américaine qui a noté pendant 12 ans les regrets des mourants. Et en numéro 1, c'était « Je regrette d'avoir été soumis à mon éducation, de ne pas avoir fait ce que j'aurais aimé faire. Et je regrette de ne pas avoir été responsable de mes choix. C'est-à-dire que je regrette de ne pas avoir choisi le bonheur. J'aurais pu à certains moments choisir de quitter, de ne pas quitter, de déménager, de ne pas déménager, de quitter le pays, de couper des liens dans nous et d'autres. Et je me suis laissé faire. Je me suis laissé choisir. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne suis plus dans une santé qui me permet de le faire. Mais les deux regrets les plus importants sont ces regrets-là. C'est pour ça qu'à mon avis, quand on a envie d'être heureux en amour, si c'est un vrai désir, il est important de se dire « Ok, je veux être heureux en amour, ça va amener des changements, exactement comme les pièces du mobile au-dessus du lit. Ces changements vont créer quelques conflits dans le système familial ou amical, voire avec mes enfants aussi, ça peut arriver. Mais au bout d'un moment, le mobile au-dessus du lit s'arrête de tourner et tout se remet en place pour le bonheur de tout le monde. » Et je me souviens de cette jeune femme de la trentaine qui a dit à sa mère « Maman, nous faisons couple et je te quitte », parce qu'elle était en couple avec sa mère depuis la mort de son père. Et en fait, après, elle a fait un petit travail assez rapide de deuil de son père. Et en ce sens, elle a autorisé sa mère à rencontrer un homme qui a 65 ans, rencontré un veuf comme elle. Et du coup, la fille a pu s'autoriser à rencontrer un homme. Parfois, ce sont des choses très simples. Mais si vous n'avez pas conscience que vous n'avez pas fait le deuil d'un parent ou que vous faites couple avec un membre de votre famille, vous êtes à mille d'imaginer que cette association, entre guillemets, vous empêche de rencontrer l'amour. Vous voyez, Caroline, pourquoi c'est important de travailler au bon endroit?
Oui, bien sûr, Bénédicte. Alors, quand je t'écoute, hein, je me permets de te vouvoyer parce que je le fais avec presque tous mes conférenciers.
Oui, j'ai un vouvoiement qui repart, là.
Est-ce que tu penses donc forcément, dans tout ce que tu viens de dire, que cela a toujours un lien avec la famille, nos relations amoureuses d'aujourd'hui, ça a toujours un lien avec la famille?
Caroline, nous ne sommes pas nés d'un utérus cosmique et de Robocop, à ce que je sache. Nous sommes nés avec une histoire, une origine, une migration. Nous sommes nés avec une religion, on peut avoir été dans le ventre de maman quand elle a perdu son père, son frère, quand son frère a été sauvagement assassiné, ou sa jumelle. Donc nous sommes issus d'une histoire familiale, et au cours de notre enfance, nous avons pu avoir à vivre la mort d'un frère, d'une sœur, une grosse difficulté dans la famille, une maladie génétique qui est déclarée. Et tous ces drames, et ces bonheurs d'ailleurs, font ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je reçois énormément de gens, alors deux choses. Je reçois des gens des pays dans lesquels je me déplace, c'est-à-dire en Belgique, dans toute la France, en Suisse et au Canada, enfin au Québec. Et je me rends compte que les problématiques sont exactement les mêmes, c'est-à-dire les loyautés, les répétitions. Après, il y a un contexte culturel qui fait que c'est un petit peu différent, parce que c'est vrai que la relation de femme est très différente au Canada de chez nous en Europe. Mais par exemple, en Belgique, je reçois aussi beaucoup de femmes qui viennent d'Italie du Sud, avec des pères qui sont extrêmement durs, même si elles ont 28-30 ans aujourd'hui. Et toutes les femmes qui viennent d'Italie du Sud ou qui viennent d'Espagne, en Belgique, ou même en France, dont les parents ou les grands-parents sont venus avec Franco, ont des femmes qui ont une histoire très particulière. quand j'écoute les Roumaines, qui sont des Roumaines qui sont venues en Suisse française du temps du mur de Berlin, il y a l'histoire de la sécurité derrière. Et les Roumaines de 28-30 ans qui sont venues après le mur de Berlin, elles ont des mères qui ont connu la sécurité. Et comme par hasard, ça fait écho avec les Russes qui vivent en France depuis 10-15 ans, qui donc ont eu une enfance sous le KGB, etc. Donc l'histoire de l'origine ethnique et de la religion est je dirais, le paquet cadeau. C'est-à-dire ça va renforcer les choses, mais on vient d'une origine, on vient d'une lignée de femmes qui de femme en femme ont prêté leur utérus à la suivante, et comme toutes ces femmes que nous sommes, Caroline, qui avons aussi, je ne sais pas si vous avez une fille, moi j'ai une fille, donc j'ai aussi, voilà, elle est un être humain, elle est aussi ma fille. Et donc, nous sommes issus d'une lignée de femmes, et si l'arrière-grand-mère, et j'ai vu ce cas-là, justement avec une jeune femme d'origine belge qui a fait un travail là-dessus, l'arrière-grand-mère avait dit, vous en crèverez toutes, parce que moi j'en ai bavé, il n'y a pas de raison. Et du coup, bah, il y avait une lignée de femmes qu'on a bavé à toutes les générations. Et ce sont des histoires complètement, c'est même pas du secret de famille, enfin si, quand même un petit peu, mais c'est parfois plus simple qu'un secret de famille. Si vous êtes né après un enfant, je pense à cette jeune femme qui avait une jumelle qui est morte dans le ventre, donc elle a cohabité avec le décès, enfin cette petite fille, cet embryon mort. Ensuite donc elle a survécu, et juste après sa mère a fait une petite fille, a fabriqué le même anticorps, je crois, qui a fait que cet enfant est morte aussi. Et donc elle est si unique, elle est la survivante avec la culpabilité. Et bien sûr, sa mère a tout le temps peur pour elle. Et donc, toutes ces raisons, je les donne un peu en vrac, évidemment, parce que y a pas de... Chaque histoire est complexe. Moi, j'ai donné en fait un guide pour aider les gens à identifier les problèmes de fond et à essayer de ne pas se tromper de travail à faire. Et c'est pour ça que je donne des adresses extrêmement différentes. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on pouvait passer 20 ans sur un divan en restant dans sa tête sans aller dans son corps. Et que aujourd'hui, j'ai tendance à privilégier les thérapies psychocorporelles et les thérapies en groupe, parce que c'est beaucoup plus impliquant d'aller dans un groupe, surtout en résidentiel, plutôt que d'aller pleurer avec sa boîte de Kleenex chez son thérapeute, parce que là, on prend pas beaucoup de risques. Et c'est pour ça que je donne l'opportunité donc aux personnes qui me lisent d'aller travailler là où il y a un blocage, et de préférence en groupe, si c'est possible, pour pouvoir en fait être dans une espèce de laboratoire. Laboratoire qui fait qu'on s'entraîne avant de partir à la recherche du partenaire. Si vous avez dans un groupe en résidentiel vécu des affinités, des rejets, des excitations, des choses comme ça, vous aurez l'occasion de les travailler avec le thérapeute. Et ce qui fait que quand vous ressentirez cette espèce de crispation qui vous rappelle tellement tous les ex avec lesquels vous avez souffert, lors d'un premier rendez-vous, vous vous direz « Non, 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 attention !» Là, cette fois-ci, je la sens bien, la crispation. Je l'ai appris dans mon corps parce que j'ai écouté mon corps. Et cette petite musique, je vais la vérifier tout de suite. Je vais pas attendre 6 mois d'être raide dingue amoureuse. Et au contraire, si je sens mon cœur qui s'ouvre au contact de l'autre, je vais donc avoir tendance à ne plus répéter les mêmes choses parce que je l'aurais expérimenté. Voilà, Caroline.
Alors, j'ai encore une petite question. Donc, à partir du moment où on a donc identifié les différentes choses, les points communs entre les partenaires, les liens avec la famille, on fait ce qu'il faut au niveau psychocorporel, une fois que ça s'est réglé, donc ça veut dire qu'on n'est plus jamais passionné, est-ce qu'on tombe encore amoureux ou on fait juste des choix raisonnables? Ça, c'est la première partie de ma question. Et puis après, une fois qu'on a fait ce choix, comment aussi rester heureux en couple, parce que je trouve que quand j'ai moi-même rencontré des gens qui étaient heureux pendant des années avec quelqu'un, et tout d'un coup ça coince. Alors je voulais savoir quels étaient tes conseils, ce que toi tu avais remarqué qui faisait que les gens pouvaient rester ensemble, parce qu'il y a tous les gens qui n'ont pas trouvé de partenaire, mais une fois qu'ils ont le ou la partenaire, qu'est-ce qui fait qu'on peut rester, enfin, développer un amour heureux avec l'autre. Donc la première partie, c'est est-ce qu'on tombe vraiment encore amoureux si on n'a plus de résonance inconsciente? Et puis, une fois qu'on est amoureux, qu'on a rencontré la personne, comment rester heureux en couple?
Alors, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses. La première, c'est que déjà, si au moment de la rencontre amoureuse, on a éliminé toutes les histoires impossibles, c'est-à-dire les personnes pas disponibles, qui ne veulent pas s'engager, etc., enfin toute la liste toxique pour elle-même déjà, il y a déjà beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut être durable et possible. Mais l'inconscient étant quand même extrêmement fort, éviter les grosses erreurs ne veut pas dire qu'on tombera pas amoureuse, ça veut juste dire que la relation devient possible. Et puis ça me fait penser à quelque chose de très important, c'est que cette fameuse érotisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de jeu du yo-yo avec lequel l'autre joue de nous, c'est-à-dire que nous sommes un petit peu donc dans l'hypothèse où je donne beaucoup pour recevoir des miettes, je veux dire je vais à la place de tout le monde, hein. C'est un jeu générique, sinon ça va alourdir mes phrases. Donc je donne beaucoup pour recevoir des miettes, je suis terriblement érotisée parce que je suis en attente tout le temps comme dans l'enfance, et puis le peu que je reçois me fait penser que peut-être je vais recevoir encore plus, même si j'oublie que j'ai choisi cette personne pour précisément me revivre les mêmes frustrations. Donc dans la réalité, je ne recevrai jamais plus. Et je dirais même que je recevrai de moins en moins. Parce que plus je vais demander, plus je vais agacer l'autre, plus ça va être compliqué, plus on va être dans un rapport de force. Et l'histoire prouve que les relations passionnelles déclinent et qu'il en faut toujours plus pour obtenir de la satisfaction et que c'est de plus en plus épuisant. C'est pour ça que ça se termine très souvent. Donc pour en revenir à votre question, cette excitation-là, en fait, on se trompe d'excitation. C'est-à-dire que on projette chez l'autre cette capacité de nous rendre heureuse. On a l'impression qu'on est heureux parce que l'autre nous donne ses miettes et que si un jour il nous donnait plus que des miettes, alors on serait les rois du pétrole. Mais en fait, c'est une erreur parce que la seule personne qui ne nous décevra jamais, c'est nous. Et nous avons à l'intérieur de nous, dans notre utérus justement, quand nous sommes des femmes, et dans notre phallus, quand nous sommes des hommes, nous avons une puissance, nous avons une énergie incroyable et qui peut nous... je dirais même chez les femmes, une furie, nous sommes capables de faire plein de choses. Regardez, comment par amour, tout ce que nous sommes capables de faire, et parfois par désespoir, et parfois par sentiment d'injustice, après chacun à son ressort. Et nous accordons donc à l'autre cette puissance que nous avons l'impression de ne pas avoir, puisque nous manquons de confiance en nous, et nous sommes dépendants des miettes qu'il va nous donner, sans voir qu'à l'intérieur de notre utérus et de notre phallus, en nous, nous avons une puissance extrême. Et précisément, à partir du moment où nous sommes en contact avec notre corps et avec notre ventre, avec notre bas-ventre plus exactement, cette puissance-là, elle nous habite et ça nous fait de l'énergie, ce qui fait que nous allons déjà pas être attirés spontanément par des gens qui vont nous faire souffrir, nous allons plutôt être attirés par des personnes qui sont eux aussi dans leur puissance, ou en tout cas dans leur autonomie. Ce qui fait que plus vous allez vous évoluer en évitant toutes ces personnes qui ne sont là que pour vous en faire voir de toutes les couleurs, plus vous allez ouvrir vos perspectives et plus vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui sont un peu comme vous, avec lesquels vous allez pouvoir grandir ensemble. Et grandir ensemble en étant, entre guillemets, dans un projet commun de construction, c'est déjà nouveau pour des personnes qui ont beaucoup répété. Et c'est là où je peux répondre à votre deuxième question, c'est que tout le travail reste à faire. La seule différence, c'est qu'on sait qu'on a un enfant blessé à l'intérieur de soi, on sait que chez l'autre, il y a aussi un enfant blessé, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une thérapie extraordinaire qui s'appelle la thérapie Imago, qui existe dans tous les pays de la francophonie occidentale, et qui même maintenant existe à l'île Maurice, pour vous dire. Et la thérapie Imago est une thérapie où le couple peut justement rentrer en contact avec l'enfant blessé de l'autre, et ça change complètement le sens des discussions. Mais le plus simple, c'est de regarder sur internet thérapie Imago, la maison du couple.ch, et je ne vais pas vous faire un cours alors que vous aurez toutes les réponses. Donc la passion est toujours au rendez-vous, simplement vous ne vous trompez plus de pathos, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que avec la puissance qui est la vôtre, vous allez nourrir la relation, parce qu'une relation, ça se nourrit pour qu'elle dure longtemps, et surtout, vous n'allez pas centrer votre vie sur l'autre, parce que finalement, une très belle histoire d'amour, c'est celle dans laquelle chacun peut évoluer, et chaque partenaire accompagne l'autre dans son évolution. Donc son évolution, ce sont ses projets de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, que vous ayez envie de prendre le russe, le tango, ou de devenir responsable des ressources humaines de votre entreprise, ou de créer un projet bio en Ardèche, peu importe. C'est si vous avez un projet, et que vous passez toute votre énergie, toute votre puissance, le peu que vous avez, parce que comme vous êtes évidemment dans un manque d'estime de vous-même, vous ignorez que vous avez de la puissance, mais toute votre énergie vous sert à fliquer l'autre, à observer l'autre, à savoir ce qu'il pense de vous, à essayer de comprendre ce qui se passe, ben vous n'avez plus rien pour vous. quand vous êtes dans une histoire d'amour réciproque ou d'un accompagnement et d'un respect mutuel, toute l'énergie que vous n'utilisez pas à récupérer des miettes va vous servir pour vous. Ce qui fait que vous êtes deux personnes puissantes et fortes, avec bien sûr des moments de fragilité. Et c'est pour ça que vous accueillez l'autre. Quand vous êtes une femme dans votre féminin, et quand vous êtes un homme aussi dans votre féminin pour l'accueillir, mais dans le masculin quand elle a besoin de votre puissance. Vous voyez, après tout ça, c'est une question d'équilibre masculin-féminin chez l'un chez l'autre. Et pour répondre plus précisément à votre question, ce qui est vraiment important, c'est que quand votre histoire d'amour fonctionne, s'il n'y avait que ça, ça serait comme dans Belle du Seigneur, on s'ennuie au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut aller chercher à l'extérieur une énergie, qu'il faut aller chercher un projet, qu'il faut aller se nourrir pour redonner, etc., etc. Et du coup, c'est juste un déplacement d'énergie, et c'est pas du tout je ne suis plus amoureux, je me contente d'une cote mal taillée, gentiment bourgeoise, parce qu'on m'a dit que la passion c'était pas bien. Simplement la passion c'est une réaction pour récupérer des miettes et être en dépendance comme dans l'enfance, alors que quand on sort de la dépendance affective et de ces réactions qui étaient des modes de survie dans l'enfance, on se rend compte qu'il existe plein d'autres choses et que deux personnes qui sont entières et debout ont bien plus à partager et peuvent bien sûr, le temps aidant, quand justement on est ensemble depuis longtemps, que l'âge de la retraite approche, avoir des projets communs, qu'il s'agisse de voyager, de s'occuper des petits-enfants ou de monter une association pour expliquer comment on fait pour être heureux longtemps en couple. Après, c'est vraiment chacun met sa couleur. Tu vois, Caroline, est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que tu en as une autre qui te survient?
J'ai encore une toute petite qui me survient par rapport à être heureux en couple. Est-ce qu'on a remarqué, est-ce qu'il y avait des critères par rapport à la longévité de ce bonheur en couple? Est-ce qu'on a remarqué quand même des points communs pour les personnes qui étaient heureuses en couple pendant un certain nombre d'années?
Oui, alors il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Je crois que c'est Gary Chapman qui a écrit les sept... Le Love Lab, ça s'appelle, c'est un laboratoire dans lequel on a mis des gens pendant quelques 24 heures ou non-stop et on a pu dire lesquels dureraient longtemps. Mais en gros, ce qui fait que les couples durent, c'est, contrairement aux apparences, ce sont d'avoir des valeurs communes et des milieux communs. C'est-à-dire que tous les sociologues s'accordent à dire que, en fait, des personnes qui ont la même religion d'origine, les mêmes valeurs et le même milieu socioculturel ont plus de chances de durer qu'un bac moins 15 avec un bac plus 15, par exemple. Ce qui arrive, c'est que les contraires s'attirent au début, mais plus les gens avancent en âge, et notamment après 40 ans, plus ce qui compte pour eux, ce sont leurs valeurs, et puis plus les gens avancent, plus la famille devient importante. Puisque le fait de savoir qu'on peut mourir, on n'a pas ce sentiment à 20 ans. Donc, mais là encore, c'est ce qui se dit, et il y a toujours des contre-exemples qui vont démontrer que tout ça n'est pas vrai. Mais globalement, les valeurs communes, ça c'est essentiel. Des désirs communs aussi, c'est plus vous avez de choses en commun, plus c'est facile. Et en même temps, vous pouvez avoir des choses très différentes qui se complètent, tout ça, et je pense que c'est très généraliste. Moi, ce qui m'intéresse quand je reçois des couples, c'est de voir qu'est-ce qui bloque chez elles. Est-ce que sa décision de partir est bonne ou pas? Est-ce que ce couple est sauvable? Et la plupart du temps, il est sauvable. Et à partir du moment où il est sauvable, je sais être le couple qui est, et je cherche pas à essayer de même si on a donné du sens au fait que ben voilà toutes les femmes de la famille ont épousé des hommes étrangers qui étaient ceci cela qui avaient plutôt cette tendance et telle autre, bon d'accord, c'est bien. Et alors après, la vraie question, c'est quand on est face à c'est là où moi je fais du diagnostic amoureux, c'est-à-dire que quand je suis face à une question, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je réponds à la question. Je regarde les cas qui ont nourri, les cas amoureux qui ont nourri la vie de cette personne. Ensuite, je fais le lien avec l'univers familial. Après, j'explique quelles sont les loyautés des répétitions et je suggère les types de thérapie, si c'est nécessaire, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas le type de travail qui va être rapide. Moi, je dis entre 3 mois et 2 ans selon la gravité du trauma, en fait. Après, tout dépend de l'histoire de chacun, mais ça peut aller assez vite si les gens se donnent vraiment la peine. Et ensuite, donc, on donne les pistes, et chacun est particulier. Donc, dans l'absolu, c'est vrai, il y a des tas de choses qui sont écrites dans le livre, mais ce qui intéresse les gens aujourd'hui, je crois, c'est dans le livre de trouver des réponses à des questions, et surtout de ne pas passer trop de temps à travailler des choses intéressantes, mais pas forcément, mais qui ne qu'ils ne produisent pas de changement. Donc en fait, posez-vous une seule question dans vos thérapies. Est-ce que les thérapies que vous avez faites ont amené un changement dans votre vie? Est-ce qu'à la suite de ces thérapies, vous avez rencontré des personnes plus respectueuses? Vos relations ont duré plus longtemps? Si vous êtes mieux dans votre peau, vous vous alimentez mieux, vous vous faites du bien, vous êtes plus en paix avec vous-même, vous êtes plus en paix avec vos enfants. Si vous avez répondu oui à une de ces questions, ça veut dire que vos thérapies ont été très bien. Si vos thérapies vous ont permis de comprendre ce qui se passait, mais qu'il n'y a pas eu de transformation, ça veut dire que ça n'est pas passé dans le corps. Ça veut dire que ce que vous avez fait a été utile, et que maintenant il est temps d'aller travailler là où vous avez besoin que votre corps entende le message. Parce que pour l'instant, tout se passe là-haut, et vous êtes coupé souvent de votre bas-ventre, de votre corps en général, et de votre bas-ventre. Et évidemment, comment pouvez-vous sentir la puissance que vous avez dans le ventre si vous vous êtes arrêté au cou, vous voyez? Si vous êtes tout là-haut. Mais c'est pour ça que le EFT est très bien d'ailleurs pour se reconnecter à son corps. N'est-ce pas, Caroline?
Mais bien sûr. Alors, donc si j'ai bien compris, en fait, on peut être heureux en amour, quelle que soit la situation, que j'ai été dans le calme plat, dans la répétition, ou que je sois en couple, tout peut être coaché et réaiguillé vers quelque chose de plus heureux.
Je dirais même réinitialisé. Vous voyez?
C'est ça.
Oui. Réinitialiser, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'histoire. Il y a tout ça, et en même temps, je suis bien plus que tout ça. Et je ne peux pas m'identifier, ok, j'ai subi un abus, ok, c'est vrai, c'est dur. Mais est-ce que je vais me servir de mon abus pendant des années pour terroriser toutes les personnes que je vais rencontrer? Et est-ce que je vais être dans la plainte, ou est-ce qu'un jour je vais dire, ok, j'ai subi un abus, mais tout en moi n'est pas... Il existe un lieu sacré à l'intérieur de moi, et ce lieu-là, je peux aller le visiter par la méditation, par la biodanza, par le EFT, par toutes les techniques qui existent aujourd'hui, et je peux chaque jour agrandir ce lieu. Je peux le rendre de plus en plus large, de plus en plus vaste. Ça ne va pas effacer ce qui a été fait. Ce qui a été fait a été fait. Dans ce cas-là, il y a des tas de thérapies pour le trauma qui existent, qui sont très efficaces, comme le MDR ou la somatic experiencing. Mais au moins, ce qui va être génial, c'est que ce lieu-là, plus je vais l'habiter, plus je vais m'ouvrir. Et je vais donc pouvoir vivre autre chose. Donc même si je ne suis pas quelqu'un qui a une histoire simple, c'est pas grave, il n'y a pas d'âge. Et je ne vais pas passer sous le bistouri d'un chirurgien esthétique pour ressembler à n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que si je suis décidée à m'autoriser, parce que c'est ça le mot, hein, à m'autoriser à être heureux, heureuse en amour, et à vivre une histoire dans laquelle je suis nourrie et une histoire que je nourris, eh bien c'est tout à fait possible. Et il suffit juste que je me pose les bonnes questions, et que j'y réponde honnêtement, et que je décide qu'il y a une transformation dans ma vie. Ça veut dire qu'il y aura des petites choses à régler, des petites recettes de grand-mère très classiques, et il y aura peut-être besoin de faire un stage pour justement aller écouter mon corps, qui toujours, toujours, et ça ce sera c'est vraiment mon leitmotiv, votre corps vous donne la réponse, mais la plupart des gens n'entendent pas leur corps.
Alors Bénédicte, maintenant c'est le moment de l'exercice pratique. Quel est l'exercice que tu vas nous proposer pour s'autocoter?
Alors moi je vais vous proposer déjà d'identifier à quelle sauce vous avez été dégusté par vos ex. Voilà. De façon à déjà repérer les points communs entre vos différents partenaires passés. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prête, Caroline?
Oui.
Je peux démarrer. Donc installez-vous confortablement. Il faut vraiment que vous ayez le temps de faire ça bien, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en le bâclant. Donc vous allez vraiment réfléchir, peser les mots que vous allez poser sur le papier. Donc vous allez prendre une feuille de papier à l'horizontale en mode paysage, et vous allez concevoir un tableau. Et le tableau va occuper tout l'espace du papier, donc pensez grand. Et vous allez dresser des colonnes. Et dans ces colonnes-là, il y aura. Oh là là, ça va être compliqué à expliquer.
Pas compliqué.
Alors, il y a donc il y a une ligne chapeau qui est tout en haut du tableau, et il y a des colonnes que vous allez baptiser au fur et à mesure que vous les remplirez. Il y en a sept. Sept colonnes donc verticales. En haut de la première colonne, celle de gauche, vous écrivez le nom de mes partenaires marquants. Et vous inscrivez ensuite dans cette colonne le nom des hommes ou des femmes qui ont jalonné votre vie, qui ont le plus compté. L'idéal, c'est d'en avoir que trois. C'est-à-dire que vous allez comparer A et B, B et C et D, et vous gardez les trois plus importants. Si vous n'avez pas eu de relation charnelle, vous preniez les trois personnes qui ont compté, même si ça a été platonique. À partir du moment où vous avez, même si vous avez eu des histoires courtes, ce qu'il faut, c'est que ce soit des personnes avec lesquelles vous avez passé un peu de temps. Concrètement, c'est pas par à distance, hein, faut que vous les ayez vus, faut que vous ayez quand même l'expérience de la rencontre. Donc en général, on a à peu près trois personnes. Donc la première colonne, c'est le nom de vos partenaires. La deuxième colonne, ça s'appelle les traits positifs. En face de chaque nom, vous écrivez d'abord les qualités de ce ou de cette partenaire. Selon vos critères, par exemple, il y avait de la tendresse, il y avait de la réciprocité, il y avait de la fluidité, il y avait un sentiment de joie. Et puis, pour chaque partenaire, vous mettez des traits positifs et vous entourez les mots communs à tous. Dans le chapeau de la troisième colonne, vous écrivez les traits positifs communs et vous répercutez évidemment les mots entourés. Tu me suis, Caroline ?
Non, à la troisième colonne, j'ai pas compris.
La troisième colonne s'appelle les traits positifs communs. Et les points positifs communs sont donc répercutés ici. Alors, si vous ne trouvez pas de points communs, vous écrivez les cinq spécificités que vous avez le plus appréciées. Et n'hésitez pas à rajouter des qualités qui sont déterminantes pour vous, même si elles sont spécifiques à un partenaire. Par exemple, s'il y en avait un qui était mystérieux, subtil ou intelligent, vous pouvez rajouter cette qualité si vous n'avez pas trouvé de qualité commune. Donc, vous me suivez ? Vous dressez
oui, maintenant... Pardon ?
C'est bon, allez-y.
Oui. Troisième colonne, très bien, oui.
Voilà. Ensuite,
par contre, je vais juste dire que j'ai réussi à mettre donc les trois partenaires, les traits positifs dans la deuxième colonne, mais j'ai pas eu le temps, malgré tout, de ce que tu viens d'expliquer, j'ai pas encore le temps de remplir, donc je pense qu'il faut.
Ah bah alors Caroline, je ne savais pas que tu faisais l'exercice en même temps. Donc
comme ça, je peux le faire comme les personnes, comme ça je sais que par rapport au rythme de ce que tu nous avances, comment c'est possible de faire l'exercice. Donc
Donc tu as déjà pu écrire les trois hommes qui ont le plus compté dans ta vie. Tu as pu écrire tous leurs traits positifs.
J'en ai trouvé un et j'ai remarqué qu'il y avait déjà deux traits communs. Donc ça, il y en a un que j'ai remarqué. Donc oui.
Donc là, bah, peut-être que ce serait bien quand tu auras un peu le temps de développer leurs traits positifs, c'est important. Et ensuite, de répercuter les traits communs. Et bien sûr, s'il n'y a pas de traits communs, tu rajoutes des qualités spécifiques. Voilà. Une fois que c'est fini, tu prends un second tableau, c'est exactement le même que le premier. Donc tu réécris dans la première colonne le nom de tes partenaires, et tu fais la même chose, mais simplement au lieu de parler des qualités, tu prends les défauts, les choses qui te posaient problème. Par exemple, il était distant, rigide, rebelote, tu entoures les mots communs. Donc tu vas avoir distant, rigide, prétentieux, je sais pas moi, dans l'ego, infidèle, alcoolique, et tu entoures les mots communs. Et pareil, si tu ne trouves pas de mots communs, tu mets les cinq défauts qui t'ont le plus déplu, et avec des traits spécifiques, par exemple, il était pervers, dépressif, jaloux, voilà, le mot alcoolique, il n'était pas pour tout le monde. Voilà, donc là, on a nos deux tableaux. Et en fait, dans ces tableaux, oui, non, j'ai été trop vite pour toi.
Non, je n'étais pas aussi vite dans le nombre de qualités, mais j'ai trouvé déjà, c'est bien, donc j'arrive à te suivre, vas-y.
Voilà, et donc dans les tableaux, tu vois apparaître une synthèse en positif et en négatif des compagnons qui ont marqué ta vie. Non, en principe, Caroline, à travers les mots communs, tu dois avoir la synthèse négative et positive, on est d'accord ?
Oui. Je peux juste te dire que comme tu vas assez vite, je ne sais pas, moi je vois assez bien, je change juste aux gens, ça demande quand même un petit travail, je ne sais pas quand tu as plusieurs traits positifs ou plusieurs traits négatifs de les voir. Et donc, c'est vrai que je comble pour que les gens puissent avoir le temps de faire ce tableau, oui.
L'idée,
c'est que j'ai les six colonnes, pour l'instant, j'ai donc six colonnes remplies sur sept, c'est ça ?
Non, parce qu'en fait, il fallait faire deux tableaux. Un positif et un en négatif.
J'ai compris. Donc, il fallait deux feuilles, une feuille par tableau, voilà. C'est ça ?
Et j'ai dit, refaites un autre tableau, le même, simplement, qui est centré négatif. À la limite, tu l'aurais fait sur Excel, tu faisais une photocopie. Mais il y a deux solutions. Soit je le fais en live et il faut une heure, soit je donne les consignes, après les gens vont réécouter et vont remplir.
D'accord.
Donc, si je le fais en live, toi tu vas très vite pour avoir une idée. Donc là, normalement, tu as donc une synthèse en négatif et en positif de tes compagnons. Donc c'est un résumé qui devrait mettre en évidence les traits de personnalité qui aujourd'hui te rappellent de bons ou de mauvais souvenirs. ou qui peuvent encore éveiller ta nostalgie ou ta colère. On est d'accord?
Oui.
Et tu te recentres sur les mots qui sortent dans la dernière colonne, la troisième. Tu dois, ça ne peut pas te laisser totalement indifférente.
Oui.
Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que se passait-il lorsque tu tutoyais le bonheur? Et dans les moments où tu souffrais, là, normalement, tu dois prendre le temps de ressentir, de retrouver la saveur de ces histoires et de noter ce qui te vient sur une feuille à part, encore une autre feuille, les pleurs, les joies, les regrets. Et tu dois surligner le trait positif qui a déclenché ton émotion la plus sombre et bien sûr celui qui a activé ton extase et ton enthousiasme. Tant tu étais heureuse à l'époque de cette relation. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'aller dans le ressenti de ce que ces comportements déclenchaient chez toi à l'époque. Et donc, évidemment, pour récupérer ces précieuses informations sur une feuille à part. Et en fait, maintenant, l'idée, c'est d'aller décortiquer ce processus dans ta chair. C'est qu'à partir du ressenti de ton corps, que tu ne manqueras pas d'écouter maintenant, tu vas déceler, lors des prémices de la prochaine relation, si celle-ci te convient. Et cette capacité à saisir l'instant va te permettre d'être l'actrice de tes choix amoureux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai expliqué l'importance du travail du corps. Là, en fait, avec ces tableaux, tu te remets dans la posture de l'époque et tu vas pouvoir identifier exactement ce qui se passe dans ton corps quand tu rencontres quelqu'un avec lequel ça va mal se passer. Est-ce que tu me suis? Je pense que c'est un peu trop compliqué comme exercice.
Non, mais si tu penses que c'est compliqué, moi je trouve pas que c'est compliqué. Si j'ai bien compris, donc j'ai une colonne avec le nom des partenaires marquants, ou des personnes marquantes, c'est comme tu dis si on n'a pas eu. La deuxième colonne, donc je trouve que c'est pour le premier tableau positif. La deuxième colonne, ce sont les traits positifs et les qualités que je vais trouver pour chacune des personnes. Comme effectivement, je n'ai pas encore eu le temps de le faire comme de manière aussi développée, mais j'ai jamais mis un. Puis la colonne suivante, ce sont les traits positifs communs, aux cinq spécificités les plus appréciées. Et puis je fais la même chose du côté négatif.
Absolument, c'est parfait.
Voilà, et après la conclusion, c'est quand tu dis d'aller dans la colonne de conclusion des choses.
Attends, on n'est pas encore là, la conclusion. Après, ce que tu fais, c'est que tu as donc retrouvé les sensations corporelles de l'époque, tu les as mis sur une feuille.
Oui.
Et donc, ça, c'est vraiment pour t'amener à le faire, parce que tu peux pas le faire en 30 secondes et demie. En fait, c'est un travail pour que les gens prennent le temps de se poser. Et dans la quatrième colonne du premier tableau, en face de chaque qualité des hommes qui t'ont le plus marqué, tu dis ce que celle-ci t'amenait à éprouver jadis ou t'amène à éprouver maintenant quand tu y repenses en termes de sensations. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as marqué sur ta feuille à part quand tu as pris le temps de te recentrer, d'écouter ton ressenti corporel de l'époque, tu vas pouvoir mettre ça en forme dans la quatrième colonne. Du premier tableau pour l'aspect positif et du deuxième tableau pour l'aspect négatif.
J'ai compris.
Tu vois ? Mais c'est pour ça qu'il faut faire le travail à part, parce que si tu le fais directement, tu vas le faire mal fait. Il faut prendre le temps de dire oui, quand il me prenait dans ses bras, mais c'était... Alors, je te donne un exemple, c'est vraiment un titre indicatif. Hein. Par exemple, si tu as retenu comme qualité la sensibilité, l'intelligence, les performances sexuelles, tu peux éprouver des sensations de joie, de plénitude, de bonheur, d'émotion, de plaisir et de fierté. Si tu as inscrit comme défaut la distance, la jalousie, la violence, tu peux éprouver des sensations d'angoisse, de peur ou de frustration. Tu vois ?
Oui, absolument.
Et donc, dans la cinquième colonne des deux tableaux, après les sensations, tu vas donc noter les ressentis corporels positifs et négatifs en relation avec les mêmes qualités et défauts. Par exemple, puissance, légèreté, ou encore cœur battant, gorge nouée, douleur au dos. Tu vois, on avance dans la cinquième colonne.
J'ai pas compris la différence entre la colonne 4 et 5, c'est que tu me dis en face de chaque qualité quelle est la sensation que j'ai éprouvée dans la colonne numéro 4 et dans la 5.
Dans la 4, c'était le ressenti corporel. C'était le ressenti direct, pardon. Voilà. Qu'est-ce que ça te faisait quand, comme ça fait plus d'un an que j'ai écrit le tableau, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça te faisait?
Le ressenti direct.
Voilà, le ressenti direct quand tu vois. Et maintenant, c'est le ressenti corporel. Donc le cœur battant, la douleur dans le dos. Dans la sixième colonne, vis-à-vis de chaque prénom, tu mets les comportements agréables et désagréables qui te mettaient dans tous ces états, donc en face de chaque homme que tu as choisi. Par exemple, la réciprocité, ça impliquait donc en termes de ressenti un contact tactile et un toucher. et une capacité d'expression. C'était des mots doux et des échanges riches. Donc pour vous, le contact déclenche votre bien-être. Et dans le côté négatif, la distance et l'indifférence, alors par exemple, c'était déclenché par un silence radio, par la disparition de l'autre, par des retards, ou l'envahissement, c'était déclenché par un harcèlement téléphonique, une omniprésence, etc. Pour vous, la disparition, votre partenaire soudain cesse de donner signe de vie, ça te déstabilise. Voilà. Et là, on en est donc à la sixième colonne.
Oui.
Et donc chacun de ces tableaux se caractérise par des mots qui sont évocateurs d'images. Ce sont des montagnes russes de tes relations. Ils mettent en évidence deux tendances qui deviennent des repères. D'un côté, une attitude désagréable, non souhaitée, voire irrespectueuse, qui conduit éventuellement à la rupture. De l'autre, des situations douces, quasi magiques, celles que tu préfères vivre. Les points détestables ne te rappellent-ils pas certaines situations vécues dans l'enfance, dont tu aurais été le témoin ou que tu aurais subi indirectement? Par exemple, le harcèlement, l'omniprésence, ou au contraire la distance, tu vois. Et peut-être que tu as été formaté pour supporter des interactions qui ne sont pas confortables et qui, comme par hasard, se retrouvent dans ces relations amoureuses. Et la dernière colonne, évidemment, mais là je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, c'est de faire le même travail avec les parents et de mettre le prénom du parent qui correspond à l'homme ou à la femme qui t'a marqué. Dans ton cas, c'est un homme. Tu me suis?
Je sais. Je suis parfaitement. Je trouve ça parfait, cet exercice.
Et comme par hasard, dans la colonne du prénom, tu vas retrouver en face de Germain, il y aura maman. En face de Jérémy, il y aura ta sœur Sidonie. Et le troisième, il y aura papa, maman et Sidonie, tu vois. C'est clair comme ça?
Ah oui, moi, je trouve ça fantastique comme exercice. Donc, on va commencer une ébauche, mais c'est vraiment extra, je trouve. Moi, j'ai fait j'ai deux tableaux là devant moi. Je trouve vraiment un excellent début. Donc.
Super. Alors, ça valait le coup de se compliquer un peu la vie, parce qu'en fait, c'est très simple, mais il faut le temps de l'expliquer. Voilà.
Absolument. C'est bon? Eh bien, Bénédicte, merci infiniment pour cette conférence extrêmement explicite sur les relations amoureuses. Je trouve ça fantastique. Je te remercie infiniment et à très bientôt à tous et à toi.
À très bientôt. Merci Caroline. Et le livre s'appelle Autodiagnostic amoureux aux éditions de l'Homme. Et le premier s'appelait Le prochain c'est le bon aux éditions Albin Michel.